le père Marie Dominique était un petit peu comme le confident. Père Finet était net avec Marthe, Robin. Parce que père Marie Do, c'est un petit peu le Saint-Jean, quoi. Il y avait Saint-Pierre, Saint-Jean, quoi. Et c'est le père Marie Do qui faisait toutes les retraites chaque année de tous les membres de foyer de charité, qui se réunissaient une fois par an à Châteauneuf pendant une semaine. Et c'est le père Marie Do qui leur prêchait la retraite. Et un jour, il va voir, donc à chaque retraite, il va voir Marthe, bien sûr, le père le petit, le père Marido. Maria, elle appelle le père Marido, le père le petit. Et il va la voir et puis il avait vu, ça faisait depuis qu'il est enfant, depuis qu'il est petit enfant, depuis l'âge de 6 ans, il lit l'évangile de Saint Jean, le père Marido, avec un immense théologien qui est aveugle, un très très grand dominicain qui s'appelle le père de Haut, qui est son oncle et qui est à la maison. Il lit saint Thomas d'Aquin dans le texte latin depuis l'âge de 5 ans, parce qu'il doit le lire dès qu'il apprend à lire au père de Haut, qui lui explique. De Saint Jean. Et quand, au bout d'années de prière, de réflexion, de contemplation, il lui paraît évident, sur tous les plans, théologiques, exégétiques, mystiques, etc., que le prologue de l'évangile de Saint Jean, dans le principe, était le Verbe, et le Verbe est Dieu, et le Verbe face à face avec. Ça vient pas de Saint-Jean, ça vient de Marie. Tout conduit à ça. Et puis quand il va voir Marthe, des dizaines d'années après, il a quand même cette interrogation. Il dit, Marthe, quand Saint-Jean a écrit le prologue, est-ce que par hasard, ce ne serait pas ce que je pense, ce que j'ai toujours pensé, est-ce que par hasard, ce ne serait pas ce que Saint Jean a reçu comme confidence, que Marie lui a fait, de ce qu'elle vivait, de ce qu'elle regardait, de ce qu'elle voyait et de ce par quoi elle était prise, quand il y a eu le coup de lance et qu'elle a vu de l'eau et du sang. Elle a été saisie par le Verbe de Dieu. Est-ce que ce serait pas ça? Et Marthe, sur son petit lit, elle était là. Elle me dit, mais c'est évident. Mais bien, c'est complètement, c'est évident. Comment se dit que vous savez que vous savez? Marie, au pied de la croix, elle est absorbée par le Verbe de Dieu. Elle est entièrement prise par la vision, elle vit déjà du ciel dans lequel se trouve le Verbe de Dieu. L'âme de Jésus s'est séparée, et Jésus n'est plus là, l'âme humaine de Jésus, l'affection de son Fils, la sensibilité, la présence de son Fils humain, la présence humaine de son Fils n'y est plus, il n'y a plus que le corps quand même, hein, il y a quand même le corps. Mais il y a la personne de Dieu, le Verbe, et elle est engloutie dedans, et le Verbe est Dieu. Elle est à l'intérieur de Dieu, face à face avec son Père, sa première personne. Et c'est ça qui fait qu'elle tient debout. Et quand, ça c'est quand Jésus meurt, et quand il y a le coup de lance, il y a une pompe de l'Esprit Saint. Ce que Saint Jean dit dans l'Épître, avec l'eau et le sang, Le troisième qui témoigne, c'est l'Esprit Saint. Il y a eu une Pentecôte. Et la seule qui a reçu cette Pentecôte, de l'amour du Fils pour le Père, dans le cœur sacerdotal du Christ mort, la seule qui a reçu cette Pentecôte, où c'est l'Esprit Saint directement qui a sur un quasi infiniment multiplié l'amour qu'il y avait dans le cœur de Marie par le glaive. Elle a reçu une Pentecôte où c'était l'amour pur et substantiel de Dieu qui brûlait son cœur. Elle a reçu la Pentecôte d'amour. On appelle ça, en termes techniques, la transverbération. Regardez la différence entre la transverbération de Sainte Thérèse d'Avila, 20 ans avant sa mort, quand Saint Joseph lui est apparu, pour le mettre sous son manteau. Effectivement, Jésus est allé dans le manteau de Saint Joseph, dans les limbes, et c'est à ce moment-là que Marie a été transverbérée. Joseph a joué un rôle, hein, vous le savez, ça, hein, dans la transverbération et dans cette Pentecôte. S'il n'y avait pas le mariage entre Marie et Joseph, il n'y aurait pas eu cette possibilité. J'ai pas le temps trop de rentrer dans le mystère de Joseph et de Marie. Je voudrais rentrer dans le mystère de la parousie, de l'espérance chrétienne et de ce premier mystère. C'est évident. La deuxième Pentecôte, c'est quand Jésus ressuscite, il souffle sur les apôtres et il dit recevez l'Esprit Saint. Et la troisième Pentecôte, c'est après l'ascension. C'est une communion, c'est le fruit de l'Eucharistie. Mais la Pentecôte de mort, c'est de vivre ce que Marthe a vécu. L'Église, il faut qu'elle devienne suffisamment pauvre pour vivre de cette blessure ardente du cœur. Que c'est l'Esprit Saint qui est présent dans notre pauvreté et qui fait qu'on vit vraiment de ce que le bon Dieu qui rentre dans le bon Dieu vit dans le bon Dieu. Parce que quand le bon Dieu rentre dans le bon Dieu pour vivre du bon Dieu, c'est la Pentecôte. Et ceci dans notre cœur, dans le point de vue le plus sensible de notre cœur. C'est tout ce qui est créé, qui est saisi à travers nous par ça. Pentecôte d'amour. Et pour ça, il faut une grâce. Une double grâce. Une grâce que l'Église, que nous, extérieurement, du point de vue extérieur, du point de vue institutionnel, du point de vue des apparences, soit on accepte d'être livré à la destruction. Pour qu'il y ait cette transverbération. Il y a des gens qui ont refusé, c'est vrai, parmi les apôtres, il y en a 11 qui ont refusé absolument de participer à ce mystère au pied de la croix. Parmi les 72 disciples ont refusé de participer à ce mystère. Ça fait pas mal, hein? 72 sur 72. Parmi les apôtres, un seul. C'est pas étonnant. Comprenez, qu'il y aura un tout petit reste. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des chrétiens, que ce n'est pas des saints. Les apôtres sont des saints. Ils sont partis, ils ne veulent pas. La Pentecôte d'amour est réservée à ceux qui sont pour vivre de Marie, uniquement de Marie, et en lien avec Joseph qui est caché au fond de notre mort et de la mort de l'Église et de la mort du Christ. Pour qu'il y ait cette Pentecôte d'amour, c'est l'avènement du Consolateur. Il n'y a pas d'avènement du Consolateur, Esprit Saint, si notre mort, si on n'accepte pas la mort totale, si vous voulez, voyez, si on n'accepte pas le côté humain de nos sécurités religieuses. Je dis bien le côté humain de nos sécurités religieuses, parce que du point de vue de la foi et d'espérance, c'est seulement le côté divin de nos sécurités éternelles qui soutiennent notre cœur. C'est ça l'espérance. Et donc pour ça, à un moment donné, il faut accepter. C'est la volonté du Père. C'est la volonté du Père. C'est par obéissance à la volonté du Père. Et c'est sûr que Jésus, le Christ, a promis qu'il enverrait à l'Église tout entière son paraclet, son consolateur, qui doit redire au monde tout ce qu'il a vécu, qui doit redire dans le monde et faire revivre dans le monde tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a enseigné. Surtout après la grande épreuve, la grande tribulation purificatrice. Alors, il y a cette venue intermédiaire de Jésus. La première venue, c'est Noël. Vous voyez, ce premier mystère, c'est le mystère de Noël. Quand Jésus meurt, aussitôt, il remet dans le cœur de Marie au coup de lance, par la Pentecôte d'amour. C'est la deuxième venue que le Saint-Père a annoncée dans sa première encyclique Redemptor Hominis. L'Église se prépare au deuxième avant de l'an 2000. Il y a l'année de l'an 2000, vous voyez. Il y a une date en plus. Ce qui est assez gonflé. Deuxième avant, l'esprit théologie, ça a une signification extrêmement précise. Sauf pour ceux qui ne comprennent rien, qui n'ont jamais fait de théologie, qui ne savent pas ce que c'est que la doctrine, qui ne savent pas ce que c'est que la tradition. Deuxième avant, c'est cette venue intermédiaire, qui correspond à la Pentecôte d'amour, qui est au milieu d'une croix toute pure de toute l'Église. Oui. Mais une croix joyeuse. Vous comprenez ? Un peu comme Marthe, croix très joyeuse, torrent de bon. Marie est au pied de la croix parce qu'elle sait que Jésus, en mourant, et ça y est, il est dans le bonheur. Le Verbe est dans le Père. Il faut. Je sais que ça y est, il est dans le temps. Quel bonheur il a. Je le vois mort sur la croix, mais il est dans un bonheur. Alors c'est torrent de bonheur qu'elle vit. C'est sa consolation. Et ça saisit jusque son corps, quoi. Et son corps en est déchiré. Et ce glaive fait que la... Vous voyez, la différence, donc j'en étais là, à Sainte-Thérèse d'Avila, Marie. 20 ans avant sa mort, Thérèse d'Avila, apparition de Joseph, transverbération, vous le savez, du cœur de Sainte-Thérèse d'Avila. Ça veut dire que... Alors, on le représente, c'est une représentation avec 7 poignards, vous savez. Attention, c'est 7 poignards. Mais effectivement, quand après sa mort, Thérèse d'Avila, quand on a dit, parce qu'elle a dit à ses confesseurs, oui, ben, bon. Alors, on a dit, Vite, vite, alors, c'était l'époque, vous comprenez? C'était le système de l'époque. Bon, on va voir, on va vérifier. Après sa mort, vite, on a pris un grand couteau. On a ouvert, on a pris le cœur, on a vérifié, effectivement. Le cœur de Thérèse d'Avila était des trous énormes, ça y en avait 7. Avec cicatrisé, plus ou moins, mais enfin, ça veut dire qu'elle était morte physiologiquement depuis 20 ans. Il y en avait 7. Dans le cœur de Marie, il n'y avait qu'une seule plaie. Vous voyez la différence entre l'Esprit Saint répandu dans ces 7 dons et l'Esprit Saint dans la Pentecôte d'amour. C'est ça le premier mystère joyeux. C'est notre plus grande joie de nous préparer à recevoir cette blessure du cœur qui saigne en une seule plaie vivante dans notre cœur, jusqu'au point de vue physique. Et qu'on vive en notre cœur humain de l'unité du Père et du Fils. C'est l'Esprit Saint. Dans la blessure du cœur de Jésus, au messager de l'Église tout entière, de celui qui aime son frère, Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Écrit ainsi parle le Saint, le vrai, celui qui détient la clé de David. C'est Joseph, la clé de David. Vous le savez, n'est-ce pas? S'il ouvre, nul ne fermera. Et s'il ferme, nous l'ouvrira. C'est Joseph qui ouvre en nous cette plaie. Je connais ta conduite, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Transverbération. Parce que tu disposais de vraiment peu de force, de peu de puissance. Et pourtant, tu as gardé ma parole, malgré ta faiblesse, et tu n'as pas renié mon nom. Alors, j'ai ouvert face à toi une porte que nul ne peut fermer. Et mon retour est proche. Tiens fort ce que je te donne ici, pour que nul ne ravisse ta royauté et ta couronne. Le vainqueur, je le ferai colonne dans le corps mystique, le corps spirituel de mon Dieu, dans le temple de mon Dieu. Si l'annonciation de la transverbération de notre cœur au jour de la Pentecôte d'amour, de la victoire du cœur immaculé de Marie dans l'Église, auquel nous nous préparons et que nous vivons déjà dans la méditation de ce mystère. Oui, le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus jamais. Le temple de mon Dieu, c'est le corps, l'esprit, le corps. Dans notre corps, il n'en sortira plus jamais. Et je graverai la stigmatisation, je graverai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, de chez mon Dieu et le nom nouveau que je porte. Celui qui a des oreilles, qui l'entend. Il écoute ce que l'Esprit Saint proclame au corps mystique de l'Église tout entière. Ah, vous voyez comme c'est beau, premier mystère de l'Annonciation de l'Église de la Paroissie. L'Annonciation. Nous nous préparons à recevoir sa visite de l'ange Gabriel, c'est-à-dire la force de Dieu dans l'homme, Gabriel. Force de l'Esprit Saint, dans notre cœur, uni au cœur de tous les pécheurs du monde. Notre cœur devient le cœur qui est tout petit, dans l'immense cœur de chaque pécheur du monde. C'est bien qu'il ne nous verra pas, parce qu'on est tout petit. C'est super. Et cette annonciation, il faut s'y préparer. De même que Marie s'est préparée à l'annonciation, elle s'est préparée comment? En s'unissant intégralement à Joseph par le mariage. Alors, oui, la Pentecôte d'amour annoncée par Marthe, par l'Immaculée, non mais en Portugal, pendant 153 jours, avant la fin du XXe siècle. On le sait. On s'y prépare. Vous vous rendez compte? Pour Marie, Marie savait. Joseph aussi. Est-ce qu'on connaissait la date exacte de l'incarnation du Messie? Depuis 530 ans. À l'époque du prophète Daniel. On savait que ce serait 434 ans après la proclamation par un roi rebâtissé le mur de Jérusalem. Le Messie prendra corps. Effectivement, vous trouverez ça dans le livre de Néhémie, le livre d'Esdras, que Jean Gabriel, le Saint Gabriel, l'archange Gabriel a dit au prophète Daniel, c'est réalisé. Et on compte 434 ans et on arrive à moins 5 avant Jésus-Christ. On savait l'année exacte. Tous les Juifs connaissaient l'année exacte. C'est à cause de ça que Hérode a rebâti le temple pendant 47 ans. Dans l'Évangile, ça a duré 47 ans. Où est-ce 47? On le trouve partout ici, département 47. La croix, 7, l'Esprit Saint, en plénitude. C'est génial. Si on en bave, mais c'est super. Ah, ça va, chaque fois je vous verrai, quelques fois je vous pose que ça va. Et si quelqu'un me dit, oh oui, ça va bien, je dis merde. C'est pas bon ça. Il faut vraiment en baver, quoi. Ça, c'est bon ça. Impuissant, qu'on n'en peut plus, que ça c'est là qu'on tient le bon bout. Ferme ce que tu as, c'est ta couronne là, c'est ta couronne. Église de Philadelphie, c'est ta couronne. Là tu peux être petit, tu vas recevoir l'Esprit Saint. C'est parti de l'Église là maintenant. Ça c'est joyeux, vous voyez. Il le savait, donc imaginez quoi, imaginez ça, surtout qu'il y avait quand même ce miracle quoi, extraordinaire du mariage de Jésus, de Joseph et de Marie quoi. Ils ne voulaient pas se marier, et puis Dieu leur dit, il fait des miracles pour ça, vous vous rendez compte? Il savait très bien que lui, c'était le descendant de David, il le savait Joseph. Hein. Marie le savait qu'elle était vierge, par plénitude de grâce. Enfin, pour se préparer, vous voyez, la préparation. C'était dans une humilité. Et nous devons nous préparer. Mais plus on est nul, mais plus mieux c'est. Et moins on fait de choses, mieux c'est. Les gens qui font beaucoup de choses ne seront pas là. Il faut laisser les œuvres et se recueillir. Dans le mystère de Marie, dans son unité avec Joseph, cette unité d'amour pro, qui prépare à recevoir la Pentecôte d'amour dans l'immense épreuve qui va fondre sur le monde. de ceux qui sont attachés aux choses terrestres et à leurs œuvres, même si elles sont bonnes. Toutes les œuvres deviennent mauvaises lorsqu'elles ne consistent pas à être prêts à recevoir le calice de ce premier mystère de la parousie, l'avènement du Consolateur. C'est l'Annonciation. Effectivement, à la première Annonciation, l'Esprit Saint s'est emparé de Marie, et du coup le Verbe a pu prendre chair. Et dans cette deuxième Annonciation, glorieuse, joyeuse, qui sera la nôtre dans quelques semaines, quelques mois, de quelques-uns, c'est-à-dire de nous tous, j'en suis sûr, j'espère. Et ce sera une Pentecôte d'amour, l'opération du Saint-Esprit dans notre cœur, uni au cœur de tous les autres. Comme c'est beau ça. Il faut s'y préparer, et ça, c'est l'oraison, le silence, le recueillement. On se retire dans la grotte de Nazareth et dans les limbes silencieuses du papa. Étourdi d'amour dans la présence de l'Immaculée Conception qui s'est donnée totalement à lui. Et on vit ça tranquillement. Nous allons continuer notre méditation sur l'espérance.